Tique, 29 mai 1984, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Vous avez dit que l'humilité consiste d'une part à reconnaître ses qualités et ses défauts, sans plus ni moins. C'est la vérité. Point de départ de l'humilité. D'autre part, à reconnaître chez les autres des qualités que je n'ai pas et qui me pousseraient à le laisser passer devant. Oui. Ne puis-je pas découvrir ces deux aspects déjà en éthique humaine, beaucoup plus difficilement? Quel élément véritable, nouveau d'éthique religieuse fait-elle apparaître pour ce qui est de l'humilité? Que je vois que chacun est créé spécialement par Dieu comme une image de Dieu. Et que je reconnais dans l'image, je reconnais dans l'autre des qualités que je n'ai pas, qui sont comme des reflets de Dieu. C'est comme ça que je l'ai fait passer devant. Et c'est pour ça que je mettais ça. Que dans la lumière de Dieu, j'ai une lumière, j'ai, donc dans l'adoration et par l'adoration, par l'attitude religieuse, j'ai un sens beaucoup plus aigu de mes qualités, de mes défauts. C'est dans le mystère de l'adoration, c'est à l'intérieur de l'adoration. Vous voyez, j'ai un amour de moi plus profond, et c'est peut-être ça qu'il faudrait dire, que je n'ai pas explicité suffisamment, que dans l'éthique religieuse, on a un amour de soi beaucoup plus profond que dans l'éthique purement humaine. Parce qu'on s'aime dans la lumière du Créateur. Je sais que Dieu m'aime, qu'il m'a créé par amour. Et donc j'ai vis-à-vis de moi-même un amour radical et profond. C'est l'amour de Dieu, du Père, de Dieu Père sur moi. Et donc, dans cet amour, je découvre mes qualités et je découvre mes défauts. C'est-à-dire, je découvre mes limites d'une façon beaucoup plus forte. J'ai un sens beaucoup plus aigu de mes qualités et de mes limites quand je m'aime dans la lumière de Dieu. Je m'aime comme un chef-d'œuvre de Dieu. C'est quand même pas si mal, n'est-ce pas ? De m'aimer comme un chef-d'œuvre de Dieu. Je sais que je suis un chef-d'œuvre de Dieu. C'est curieux, quand on a un peu d'humour, c'est curieux que je suis chef-d'œuvre de Dieu, mais je le suis quand même. Chacun d'entre nous, nous sommes chef-d'œuvre de Dieu. Et on s'aime comme un chef-d'œuvre de Dieu parce qu'on sait que Dieu nous aime. Et alors, il y a cet amour vis-à-vis de nous-mêmes en disant, enfin, il y a des qualités, il y a des limites, c'est sûr, il y a des défauts, mais quand même, il y a quelque chose. Et puis, je découvre dans l'autre d'autres qualités, une autre harmonie de qualité et de défaut, une autre harmonie de qualité et d'humilité. Et je peux, dans mon sens de l'humilité, voir surtout chez l'autre les qualités et voir moins ses défauts. Et à ce moment-là, je le laisse passer devant moi. Et c'est ça l'attitude de l'humilité, c'est de laisser l'autre passer devant moi. Et c'est de pouvoir considérer toujours que l'autre peut passer devant moi. Parce que je découvre en lui quelque chose que je n'ai pas, qui est irréductible et qui est comme un effet, un reflet de Dieu, de Dieu comme image de Dieu. Et donc je le laisse passer devant moi. L'humilité consiste à s'effacer devant l'autre. Je ne dis pas d'aimer l'autre plus que moi, vous voyez, c'est pas ça, c'est s'effacer. C'est dans la ligne de cet ordre profond. L'orgueil me met toujours devant et l'humilité me permet de passer devant, derrière. Et de laisser passer l'autre derrière sans récrimination mais avec amour. Je suis heureux que l'autre passe devant. C'est ça la véritable humilité. Hein. Je suis heureux que l'autre passe devant. On en est loin. C'est évident, instinctivement, on aime plutôt mieux de passer devant. Eh bien, l'humilité fait que je suis heureux que l'autre passe devant. C'est pour ça que ça arrange beaucoup de choses, l'humilité. En vie commune. Parce qu'en vie commune, c'est pas drôle de laisser passer l'autre devant. Non. Et c'est ça l'acquisition de l'humilité. La vie commune nous fait apprendre l'humilité. L'adoration me fait apprendre l'humilité face à Dieu. Mais c'est relativement facile de laisser Dieu passer devant. Or, l'adoration, c'est laisser Dieu passer devant. C'est facile parce que c'est mon créateur et c'est ma source. Et qu'en lui, il n'y a pas de limite. Donc c'est normal. Mais quand je laisse la petite créature passer devant moi, qui suis moi aussi une autre créature, c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'il faut acquérir l'humilité à partir de l'adoration. Et c'est en ce sens-là qu'elle est propre à la vertu de religion. Je ne crois pas qu'on puisse acquérir l'humilité en dehors de l'adoration. Je ne crois pas. Parce que instinctivement, je verrais, mais oui, il a des qualités, moi j'en ai, il a des limites, moi aussi. Parce que c'est un autre équilibre, c'est tout. Alors pourquoi qu'il passe devant ? Aucune raison. Si je l'aime beaucoup dans l'ordre de l'amour d'amitié, je le laisserai passer devant par amour pour lui. Mais ce n'est pas l'humilité. Quand j'aime beaucoup quelqu'un, j'aime qu'il passe devant, parce que je l'aime. Ce n'est pas à cause de mon humilité. Tandis que laisser passer l'autre, parce qu'il a des qualités que je n'ai pas, c'est tout à fait différent. C'est ça l'humilité. Instinctivement, quand on aime beaucoup quelqu'un, on ne demande pas mieux, parce que, vous comprenez, laisser passer devant l'ami, c'est encore moi qui passe devant. Parce que l'ami, c'est un autre moi-même. Vous voyez, comme je suis bien, j'ai des amis extraordinaires. Et sur la carte de visite, hein, j'ai des amis extraordinaires. Ce sont tous mes amis, ça. Puisqu'ils sont mes amis, ils sont autre moi-même, oui, comme je suis bien. Tandis que dans l'humilité, je laisse passer l'autre devant. L'autre qui a des qualités que je n'ai pas. Et c'est ça que je souligne. Oui, c'est pour ça que c'est autre chose. Et c'est pour ça que je crois que c'est vraiment l'attitude, c'est vraiment l'éthique religieuse qui me permet d'exercer l'humilité. Parce que j'ai un regard plus profond sur l'autre et sur moi. À la fois, je m'aime plus, mais j'aime plus l'autre aussi. Et alors, je peux m'effacer dans lui. Bon. Voyons comment, de l'humilité, de l'adoration, nous passons à la contemplation. Parce qu'il y a un amour à l'égard de Dieu, je veux le connaître le plus que je puis. Et j'essaie de contempler celui dont j'ai affirmé l'existence, que je ne connais pas. C'est un Dieu caché, mais ce n'est pas un Dieu lointain. Et je crois que nous pouvons faire cette distinction qui est importante à faire au niveau proprement philosophique et éthique religieuse. Le Dieu que je découvre est un Dieu caché. Je ne le saisis pas directement. Mais c'est un Dieu qui n'est pas lointain, parce que ce Dieu que j'ai affirmé exister, cet être premier qui existe et qu'on appelle Dieu, c'est mon créateur. Et en tant qu'il est mon créateur, il est plus proche de mon être que je ne suis proche à mon être. Et donc c'est un Dieu intimement présent, la présence d'immensité. Ça fait partie de la considération que j'ai sur Dieu. Dieu, comme créateur, est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Il y a une présence d'immensité, une présence immédiate, sans aucun intermédiaire. Dieu ne peut pas se servir d'intermédiaire comme créateur. Donc il est intimement présent à tout ce qui vient de lui, à tout ce qui provient directement de lui. Or, mon âme spirituelle et mon être proviennent directement de Dieu, donc Dieu est plus intime à mon être, à mon âme spirituelle, que je ne suis intime à mon âme spirituelle. Si Dieu est intimement présent, même si je ne le connais pas directement, que je ne le connais qu'indirectement, je puis aspirer à le contempler. Je peux m'orienter vers lui en essayant par tous les moyens de le mieux connaître. La présence de Dieu comme créateur joue donc un rôle capital quand il s'agit de cette contemplation. Si Dieu n'était pas présent, il n'y aurait pas de contemplation. Mais parce que Dieu est présent, malgré qu'il ne soit pas connu immédiatement, il peut y avoir une contemplation. Une contemplation qui reste une contemplation d'attente. Un jour, peut-être, Dieu se manifestera à moi. Un jour, peut-être, je le verrai tel qu'il est. Ce n'est pas impossible. Et donc, je peux être dans une contemplation d'attente. La contemplation philosophique, la contemplation religieuse, reste une contemplation d'attente. Ce n'est pas une contemplation plénière. Je ne suis pas entièrement satisfait. Et même, il y a beaucoup plus d'insatisfaction que de satisfaction. Et c'est donc grâce à cette présence d'immensité que je peux m'éveiller à son appel et que je peux m'orienter vers lui et que je peux rester orienté et polarisé vers lui. Je dis bien polarisé vers lui. Vous voyez, en tant que Dieu est bon, il m'attire. En tant qu'il est présent, il polarise toutes mes forces vers lui pour que je sois tout entier tendu vers lui. Quel est le contenu de cette contemplation? Ça, je crois que nous pouvons comprendre ça, mais le contenu de cette contemplation, c'est beaucoup plus difficile à préciser. Le contenu de cette contemplation ne peut se comprendre qu'à partir de cet amour qui me pousse vers Dieu comme source de mon être, source de mon intelligence et de mon cœur, où j'essaie de l'aimer, où je désire l'aimer, et par le fait même que je désire l'aimer, je veux le connaître de plus en plus. Mais je n'ai pas une connaissance directe de Dieu. Il est le Dieu caché. C'est donc à travers ses effets que je peux essayer de le contempler. À travers ses effets. Et c'est en ce sens-là qu'on pourra dire que cette contemplation se fera toujours per modum causalitatis, per modum negationis, per modum eminentiae, j'explique. N'est-ce pas? Ceci, ce sont les expressions même de saint Thomas, pas d'Aristote. Ce sont les expressions même de saint Thomas qu'il prend à Denis. Toute contemplation de Dieu au plan philosophique se fait par mode de causalité, c'est-à-dire la présence du Créateur est en acte. Je ne peux contempler Dieu qu'en tant qu'il est mon Créateur. Donc, c'est en tant qu'il est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Ça, c'est le per modum causalitatis, par mode de causalité. Ça, il faut retenir ça, parce que c'est très beau, du reste, c'est très étonnant. Je ne peux le contempler que négativement, puisque je le contemple à travers ses effets. Et il n'est pas ses effets. Et je ne peux le contempler que par mode d'éminence, ayant nié qu'il soit ses effets. Cependant, à travers ses effets, il y a quelques reflets de lui. Alors c'est le per modum eminentiae. Donc retenez cette formule de Denis, c'est une chose très classique. qu'il faut avoir secoué dans tous les sens, n'est-ce pas, durant tant de ces études, parce que c'est beau, c'est quand même toute la structure de la contemplation à l'égard de Dieu. Per modum causalitatis, per modum negationis, per modum eminentiae. C'est pas d'Aristote, hein. Ça, Aristote ne dit pas ça. Mais c'est contenu dans la philosophie d'Aristote. Si j'explicite un tout petit peu ce qu'Aristote nous dit dans le livre Lambda des métaphysiques et dans le livre 10 de l'éthique, je dois aboutir nécessairement à voir que je ne peux pas contempler Dieu, la contemplation de Dieu. Si je cherche, quel est le contenu de cette contemplation ? Je ne peux pas le préciser autrement que per modum causalitatis, per modum negationis, per modum eminentiae. Voilà. On va comprendre. Hein ? Le per modum causalitatis, je vous l'ai dit, je ne peux pas contempler Dieu en dehors du Créateur. C'est parce que Dieu est mon Créateur que je peux le contempler. C'est parce que Dieu est mon Père que je peux le contempler. C'est parce qu'il y a un lien entre Dieu et moi. Il y a un cordon ombilical qui fait qu'il y a un lien entre Dieu et moi. Et parce qu'il y a ce lien dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de la lumière, dans l'ordre de l'amour, que je peux contempler Dieu. S'il n'y avait pas ce lien dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de la lumière et dans l'ordre de l'amour, je ne pourrais pas contempler Dieu. C'est parce que Dieu est la source de mon être, c'est parce que Dieu est la source de ma lumière, parce que Dieu est la source de mon amour, qu'il y a une possibilité de le contempler. C'est donc le fondement à cette contemplation philosophique, à cette contemplation de sagesse philosophique. Et vous comprenez que c'est important, parce qu'il n'y avait pas de contemplation, il n'y aurait pas de sagesse. Puisque la sagesse, c'est un habitus contemplativus. Deuxièmement, puisque c'est par mode de causalité que je contemple Dieu, je le contemple donc à travers ses effets, puisque je ne le vois pas. J'ai posé son existence au-delà de tous les effets, mais je ne le vois pas. Si j'avais la saisie directe de Dieu, on parlerait moins, on resterait dans son silence. C'est ce qui arrivera dans la vision béatifique. Mais tant qu'on n'est pas dans la vision béatifique, on sait qu'on ne voit pas. Je ne connais pas le quid de Dieu, je ne connais pas l'essence de Dieu, je ne connais pas ce qu'est Dieu. Je ne peux donc le connaître qu'à travers ses créatures. Ces créatures, c'est quoi ? C'est moi. En premier lieu, c'est mon voisin, c'est l'univers. Je vois donc qu'il y a trois aspects de la créature que je dois regarder. Moi-même, en premier lieu, je suis de fait, par rapport à la contemplation de Dieu, je suis dans une situation tout à fait particulière, la meilleure qui soit. Puisque je sais qu'actuellement, je dépends de Dieu. Dans mon être, dans la lumière de mon intelligence et dans mon amour. Je suis le fruit de sa création. Je suis le résultat de sa création. Et je peux en prendre conscience de cela. Puisque je considère que Dieu est atteint per modum causalitatis. Je vais donc essayer de comprendre ce qui en moi me relie à Dieu, mon existence actuelle, mon essai participé. C'est-à-dire mon acte d'être. N'existait en tant qu'il est participé, donc en tant qu'il est limité. Vous voyez bien comment je peux contempler au-dedans de moi-même, en moi, mon existait dans la lumière du Créateur, puisqu'il est participé. là, je suis dans une situation fondamentale et la plus belle qui soit au point de vue profond. Mon être participé, il est comme, ce que diront les mystiques, comme l'éponge plongée dans l'océan, complètement imbibé de Dieu. Je suis entièrement porté par le Créateur. Mon esprit participé est porté. Je suis dedans. Je ne suis pas à l'extérieur. Je suis dedans. Je suis au plus intime du mystère de Dieu. Je ne le vois pas, mais je sais que par mon essai participé, je suis imbibitur. C'est l'expression de Jean de Saint-Thomas, qui est intraduisible. Imbibitur. C'est l'éponge plongée dans le vide. On est complètement imbibé par l'action créatrice de Dieu actuelle. L'action créatrice de Dieu est actuelle sur moi. Et son effet immédiat, c'est laisser participer. Cet laisser participer n'est pas Dieu, il est limité. Je nie cette limite. Mais laisser. Vienne Dieu. Il y a donc le cordon ombilical, laisser, qui vient de Dieu. La limite ne vient pas de Dieu. La limite n'est pas Dieu, elle est moi. Et donc je peux, à partir de cet essai, avoir une contemplation de l'imminence de l'essai divin. Je remonte jusqu'à Dieu, Dieu est infini. L'imminence est l'infini, l'infini de l'essai divin. Il est l'ipso basse subsistance. Et là, je contemple sa simplicité. J'ai une contemplation de la simplicité de Dieu à partir de mon essai participé. Je puis contempler, philosophiquement parlant, l'essai de Dieu présent au plus intime de mon essai participé comme la source infinie de mon essai participé. Dieu n'est pas cette participation. Dieu n'est pas cet essai participé, mais il me communique mon essai. Et donc l'essai de Dieu est infini. Je suis enveloppé de cet essai. Je ne vois pas du tout l'essai de Dieu, hein, mais il est présent. Et je suis dans cette attitude de celui qui touche cet essai infini, source. Je le sonde, en quelque sorte. Hein, mais dans l'obscurité, de laisser participer. Parce que mon essai participer, je ne peux pas le supprimer. Je dis, Dieu n'a pas la limite de cet essai, mais il est la source de cet essai. Et donc il y a une certaine contemplation de la simplicité de Dieu à partir de mon essai. Je peux regarder, et ça je crois que c'est ce qu'il y a de plus profond. Et en fond, c'est la contemplation qu'on verrait chez un maître Eckhart. Le maître Eckhart est sûrement un de ceux qui a le plus été attentif à cette contemplation philosophique dans le monde chrétien. Vous voyez ? Saint Thomas est d'une sobriété très grande. Et quand Saint Thomas parle de laisser la simplicité de Dieu, pour pouvoir parler de la simplicité de Dieu comme il l'a fait, il faut nécessairement qu'il y ait une contemplation de la simplicité. Dieu est absolument ça. Et ça, c'est vraiment la contemplation de la sagesse philosophique. J'ai nié toutes les limites, c'est-à-dire toutes les compositions. Vous voyez, cet article si difficile de la somme, quand on le voit au point de vue analyse, c'est si difficile, il est d'une simplicité quand on voit du côté de la contemplation. Toutes les compositions sont faites pour qu'il ne reste plus que la simplicité, source de mon essai. Alors comprenons bien, ce n'est pas une contemplation lumineuse, c'est une contemplation d'une présence qui reste obscure, cachée, mais qui n'est pas lointaine. Et mon essai fait, mon existence, mon acte d'être, fait qu'il y a un lien avec Dieu, source de tout ce que je suis. Je crois que ça, c'est l'aspect premier et fondamental. je peux à partir de là, vous voyez, comprendre que cette simplicité est une perfection absolue, une bonté absolue. Ce sont les modalités. Et bon, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une contemplation à partir de l'essai. Il y a une contemplation à partir de la lumière. Je peux réfléchir sur ce qu'il y a de plus radical dans mon intelligence. Mon intelligence est source de lumière. Pas seulement mon intellect agent, mais mon intelligence est source de lumière. Puisque mon intelligence est source de lumière, cette source de lumière, cette lumière provient de Dieu directement. C'est une lumière participée. C'est une intelligence participée. Mais je peux réfléchir sur mon intelligence comme telle, la capacité de vérité. Cette intelligence participée est limitée. C'est pour ça que je distingue mon intelligence de la source de mon intelligence qui est Dieu, source de mon intelligence. Mon intelligence est enveloppée d'une intelligence première. Et elle dépend directement de cette intelligence première. Il y a un lien immédiat entre mon intelligence et l'intelligence divine. Entre la lumière qui est en moi et la lumière divine. Il y a un lien immédiat. Et cependant, il y a un voile. Et le voile, c'est la limite de mon intelligence. Parce que mon intelligence est limitée, je ne vois pas l'intelligence de Dieu. Autrement, je verrai toute chose. Ça, je peux le comprendre, hein. Je peux le saisir, dès que je réfléchis sur ce que représente l'esprit dans ce qu'il a de plus fondamental. Il y a cette limite à ma lumière intellectuelle. Je peux donc nier cette limite. Nier cette limite, c'est-à-dire ne pas m'y arrêter. Et avoir le désir de la dépasser. Je la nie, ça, je suis bien obligé de l'accepter, hein, je peux pas la refuser, c'est pas parce que je la nie que je la néantise. Hein. La négation ne néantise pas, je ne suis pas sartrien. Si j'étais sartrien, je dirais en niant, je néantise, donc je suis Dieu. Ou plus exactement, Dieu n'existe pas, puisque c'est moi qui existe. Et la néantisation. Alors que nier cette limite, c'est tout simplement considérer que je ne peux pas m'arrêter à cette limite et que je dois me mettre le plus proche possible de la source de mon intelligence. Je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est présente au plus intime de mon intelligence. Dieu est source immédiate de mon intelligence, de mon âme spirituelle. Prenez mon intelligence, prenez pas l'intelligence en tant que faculté. Parce que la source première de l'intelligence, c'est bon comme petite remarque, hein, la source première de mon intelligence, c'est mon âme spirituelle, et donc ce n'est pas Dieu. Mais mon âme spirituelle, liée à mon intelligence, dépend directement de Dieu. C'est le caractère substantiel de l'esprit qui dépend directement de Dieu. Je peux faire ce petit raisonnement, mon intelligence en tant que faculté n'est pas Dieu. Mon intelligence en tant qu'elle est une lumière limitée, c'est une faculté, c'est une capacité potentielle de connaître. Mais la source de mon intelligence, qui est mon âme spirituelle, elle est reliée directement à Dieu. Et alors, elle me donne cette présence lumineuse de Dieu. Une présence lumineuse de Dieu. Complètement voilé, une présence lumineuse. Ce n'est plus Dieu dans sa simplicité, c'est Dieu dans sa vérité. Il est la vérité première. Je puis, en troisième lieu, comprendre que je suis amour, qui envoie une capacité d'aimer. Une capacité d'aimer illimitée. Et cependant, elle est limitée. Puisque c'est la volonté. Dieu n'est pas volonté. Il est amour. Et là encore, je fais le même raisonnement. ma capacité d'aimer, mon amour, en tant qu'il est limité, il est un amour volontaire. Mais il reste un amour. Et donc, il me met en présence de la source de tout amour. Présent au plus intime de mon amour. Alors, à ce moment-là, je peux contempler Dieu comme amour. Trois aspects sur lesquels je peux contempler. Il vient toujours à partir de son effet, en essayant de dépasser cet effet, non pas du tout pour voir, pour dévoiler. Il n'y a pas de dévoilement de Dieu au sens strict. Il y a un dévoilement de l'existé de Dieu. Il y a un dévoilement de Dieu cause de toute lumière, de Dieu comme cause de tout amour. Mais il n'y a pas un dévoilement de la lumière de Dieu. Il n'y a pas un dévoilement de l'amour de Dieu. J'affirme que nécessairement, il est source de toute lumière, source de tout amour. Mais je ne le connais pas. Mais à travers l'effet existant de cette lumière, et à travers l'effet existant de son amour, je puis être en attente de sa révélation, en attente de son don. Ce que je fais par rapport à moi-même, je suis quand même le lieu privilégié. Je peux le faire par rapport à un autre, de la même manière. Et je peux le faire par rapport à l'univers. Alors, comprenons bien. Par rapport à l'autre, c'est la même chose. Et c'est beau de voir ça. Par rapport à l'autre, je peux contempler dans l'autre son existé. C'est-à-dire voir dans l'autre l'exister comme un effet direct du Créateur. Et en niant ses limites et sa composition, me mettre tout proche de celui qui est absolument saint dans son être. Je peux découvrir la lumière de son intelligence et à travers la lumière de son intelligence, découvrir la source. Je peux découvrir sa capacité d'aimer. À travers sa capacité d'aimer, je peux découvrir celui qui est source de toute lumière, de tout amour. Quand il s'agit de l'univers, c'est différent puisque je ne regarde pas l'univers en tant que lumière et amour. Je le regarde en tant qu'il est une œuvre de Dieu visible. Le tout de l'univers. Alors c'est la beauté de l'univers. La beauté de l'univers peut être pour moi un moyen plus éloigné, moins immédiat. Mais quand même un moyen. En vrai, Camus, parce qu'au fond, c'est ça que Camus a senti très fort. Il a senti combien la beauté de l'univers était pour nous un tremplin. Et vous voyez, c'est ce mot. Qui est premier, c'est l'intériorité. Alors ça, c'est très intéressant à voir, vous voyez, parce que ça peut comprendre peut-être certains points de vue où facilement on confond. Quand il s'agit de découvrir l'existé de Dieu, il n'y a pas de voie d'intériorité au sens absolu. Quand il s'agit de la contemplation, c'est une voie d'intériorité. Alors, il faut restituer cette voie d'intériorité pour la contemplation. Et comprendre que cette voie d'intériorité me met plus proche de Dieu et donc me permet de mieux le contempler que quand je contemple l'univers. La contemplation de l'univers est plus loin de la contemplation de Dieu que la contemplation intérieure que j'ai de ma propre vie d'intelligence et d'amour et de ma propre vie. Alors, je crois que c'est ça qui fait que souvent, on confond le point de vue de la via inventionis, c'est-à-dire de la voie de la découverte de l'existence de Dieu, et de la contemplation même de Dieu. Dans la contemplation même de Dieu, la voie d'intériorité est plus parfaite. Dans le dévoilement de l'existence de Dieu, la voie d'intériorité ne suffit pas. Pour la voie d'extériorité, c'est-à-dire par rapport au réel. L'homme comme tel, dans son existence, c'est en moi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est important parce que ça fait comprendre certains aspects où certains disent qu'ils aiment mieux la voie d'intériorité parce que c'est plus contemplatif. Oui, c'est plus contemplatif. Mais ça présuppose l'affirmation de l'existence de Dieu. Vous voyez donc que l'éthique religieuse s'achève dans une contemplation. Alors, il y a une question qui s'ajoute tout de suite à cela. Est-ce que cette contemplation peut impliquer une mystique naturelle? C'est la grande question qui se pose avec Plotin. C'est pour ça que ce n'est pas une question qui est extrinsèque à la philosophie. Il semblerait que pour Plotin, la contemplation demande d'être dépassée par l'énosis, c'est-à-dire par l'union, l'unité intime, par le silence, sigé, qu'il doit y avoir un dépassement de la contemplation. Plotin ne considère pas que la contemplation, c'est ce qu'il y a d'ultime. Il considère que ce qu'il y a d'ultime, c'est l'énosis, c'est l'union avec Dieu, c'est l'unité avec Dieu. Et il semblerait bien, d'après les témoignages que nous avons de Porphyre sur son maître Plotin, que Plotin ait eu des extases qui aient duré plusieurs jours. Plotin, pendant plusieurs jours, soit resté comme un homme qui ne vivait plus de cette terre. Il vivait dans une très grande saleté, mais ce n'est pas la saleté qui faisait cette extase, hein. Dans une répugnante saleté. D'après Porphyre, c'est le témoignage de Porphyre qu'il aimait beaucoup. Très curieux, ça. Pas la saleté, mais la contemplation. L'extase. Alors, qu'est-ce que ça représente? Pouvons-nous parler d'une mystique naturelle? C'est le gros problème d'Olivier Lacombe. C'est le gros problème de l'Inde. Donc c'est un problème qui est quand même très important au point de vue éthique religieuse. Y a-t-il dans l'éthique religieuse une mystique naturelle? Pouvons-nous parler de mystique naturelle dans l'éthique religieuse? Alors, pour bien comprendre cela, il faut voir la différence qui existe entre contemplation et mystique. Ce problème se pose tout de suite par rapport à la vie chrétienne. Qu'est-ce qui achève la vie chrétienne? Est-ce que c'est la contemplation ou la mystique? Vous posez la question comme ça. Peut-être que oui, peut-être que non, hein, parce que c'est vraiment pour ne pas trancher le problème et pour pouvoir rester entre les deux. Je crois qu'on doit dire que c'est la mystique. Qu'est-ce que c'est que la mystique? La mystique, c'est vivre de la présence immense de Dieu dans une expérience d'amour. C'est vivre de la présence aimante de Dieu sous le sceau de l'Esprit Saint. Ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit Saint qui sont enfants de Dieu. La mystique, c'est ce contact direct immédiat au niveau de l'amour par rapport à la source de tout amour, par rapport au cœur blessé du Christ et à travers le cœur blessé de Jésus, le Père, comme source de tout amour. La mystique, c'est proprement cela, c'est proprement cette unité de vie, unité d'amour avec le cœur du Christ. Il y a une unité de vie, une unité d'amour, dans la foi, donc sans rien voir, mais vivre de cette unité d'amour, et d'avoir cette expérience aimante. Il peut y avoir des mystiques contemplatives qui impliquent un acte de contemplation, mais il peut y avoir une mystique qui ne soit pas immédiatement contemplative. Donc on pourrait dire que la mystique enveloppe la contemplation. Au niveau proprement chrétien. Parce que le don de sagesse va se réaliser à travers un acte de contemplation. Et un acte de contemplation mystique. Et il peut y avoir d'autres dons du Saint-Esprit qui n'impliquent pas la contemplation. Le don de piété, le don de force, le martyr. Le martyr, ce n'est pas un acte de contemplation. Le martyr, c'est l'enfant de sa vie pour Dieu. Et sans doute qu'au moment du martyr, hein, la contemplation n'est pas tellement brillante. Hein. C'est que vous êtes saisi uniquement par l'amour, et puis c'est tout. Tandis que dans la contemplation, il y a un regard de l'intelligence. Il faut donc bien comprendre que la mystique chrétienne implique un contact direct à travers l'amour, je dis bien direct à travers l'amour, avec la source de tout amour, le cœur blessé de l'agneau, et le Père, sous le souffle de l'Esprit Saint. Contact direct à travers l'amour. Parce que c'est toujours à travers l'amour qui m'est donné que se fait ce contact intérieur. C'est à travers l'amour qui m'est communiqué. Dieu me donne son amour. Et c'est à travers cet amour qui m'est donné que j'ai un contact direct avec Dieu. Parce que la charité comme telle ne fait pas nombre avec la source. Et c'est pour ça que ce contact est direct. À travers la charité. Mais ce n'est pas la charité que j'expérimente, mais c'est la source de la charité que j'expérimente. Parce que cette charité est substantielle et qu'elle vient directement de Dieu. Participation formelle à la nature de Dieu. Participation formelle à l'amour de Dieu. Et donc, c'est bien à travers cet amour, vers cet amour créé qui est la charité, que j'expérimente la blessure du cœur de Jésus, que j'expérimente Jésus comme source d'amour, mais c'est lui que j'atteins directement. Donc, vous voyez que le métaxu, c'est-à-dire l'intermédiaire qui me relie à Dieu dans l'attitude mystique, c'est la charité. C'est l'acte de charité et la charité reçue de Dieu, qui est l'intermédiaire. Et cet intermédiaire n'en est pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas non avec Dieu. Il vient directement de Dieu et me conduit directement à Dieu. Donc je peux dire que dans la vie mystique, il y a expérience de la source de tout amour, qui est le Père, à travers la blessure de Jésus, à travers la blessure du cœur de l'agneau. Dans la contemplation philosophique, quel est l'intermédiaire? Un effet. Il fait nombre avec Dieu. C'est ça toute la différence. Alors, je peux donc dire, il y a contemplation philosophique, mais il n'y a pas mystique naturelle. La mystique naturelle, non. Parce que pour qu'il y ait mystique, il faudrait que cet effet à travers lequel, cet effet créé à travers lequel j'expérimente Dieu ne fasse pas non avec Dieu. Ce qui est vrai de la charité, ce qui n'est pas vrai de laisser créer, participer, de la lumière créer, donc mon intelligence et de l'amour. Et c'est pour ça que je dois affirmer contemplation de sagesse philosophique, mais pas mystique naturelle. La mystique surnaturelle ira beaucoup plus loin que la contemplation philosophique. Parce que la contemplation philosophique reste toujours au seuil. Elle ne pénètre pas dans ce qui est plus intime à Dieu. La contemplation chrétienne, la mystique chrétienne pénètre au plus intime du mystère de Dieu. par un amour qui m'est donné et qui m'est communiqué. Sûrement. Oui, mais alors il communique la grâce. Il communique la grâce. Si Plotin, autrement dit, si Plotin a eu une véritable expérience mystique, cette expérience mystique relève d'une grâce. Et d'une grâce chrétienne. Sans qu'il en ait, lui, la connaissance explicite. Sans en avoir la connaissance explicite que ça vient du Christ. C'est sûr. Dans toutes les grandes traditions religieuses, on relève des âmes mystiques. C'est la grâce chrétienne qui leur est donnée. Parce qu'ils sont des âmes de bonne volonté.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.